Le journal est présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. 90% des trains annulés, 11 lignes de métro fermées. Les transports seront fortement perturbés jeudi pour la journée d'action syndicale. Le mouvement sera très suivi également chez les enseignants. Le point dans ce journal avec Hakim Kasmi et Anne-Laure Jumet. L'Assemblée examine une résolution qui assimile l'antisionisme à une forme d'antisémitisme. Le texte non contraignant divise la majorité. Nous verrons cela avec Pierre Neveu. Emmanuel Macron a rencontré Donald Trump aujourd'hui à Londres en marge du sommet de l'OTAN. Le président français continue à juger l'Alliance Atlantique en état de mort cérébrale. Une rencontre Trump-Macron suivie par notre envoyé spécial Bertrand Galichet. Bernard Pivot quitte l'Académie Goncourt dont il assurait la présidence depuis 5 ans. À 84 ans, le journaliste veut retrouver une certaine forme d'indépendance, nous expliquera Cécile de Kervasdoui. La grève de jeudi contre la réforme des retraites s'annonce très suivie. Il ne s'agit plus d'une prévision au doigt mouillé, mais d'une estimation chiffrée qui repose sur les premières déclarations des grévistes potentiels. Alors avant d'évoquer les perturbations dans les transports et notamment à la SNCF, on va s'intéresser à l'éducation nationale avec vous, Hakim Kasmi. Bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Hakim, si l'on en croit les deux principaux syndicats dans le primaire et le secondaire, les grévistes seront majoritaires jeudi.
Oui, une mobilisation qui s'annonce massive. 70% de grévistes au SNUVP, premier syndicat du primaire, 60% SNES, premier syndicat du secondaire, des enseignants très remontés, donc contre la réforme des retraites, qui va leur faire perdre jusqu'à 900 euros par mois de pension, rien que dans le primaire, selon Francette Popinot, la secrétaire générale du SNUIPP.
Jusqu'alors, nos pensions étaient calculées sur les 6 derniers mois. Tout simplement parce que nous débutons avec un salaire très bas, entre 1400 et 1600 euros pour des gens quand même titulaires d'un bac plus 5. Et il y a une progressivité très lente. Donc il n'y a qu'en fin de carrière que nous avons un salaire correct pour permettre d'avoir effectivement une pension convenable. Si là, notre calcul se fait sur l'ensemble de la carrière, nous perdrions entre 600 et 900 euros, selon évidemment le nombre d'annuités.
Des chiffres que conteste Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, qui précise que le ministère travaille déjà sur la hausse des primes des enseignants pour compenser la perte de pouvoir d'achat, l'objectif du ministère étant de les rapprocher de celles des attachés de la fonction publique. Jean-Michel Blanquer.
Le président de la République lui-même et le Premier ministre, et moi-même bien entendu, nous nous sommes engagés à ce que ça ne soit pas le cas. Donc ce message doit être entendu très clairement. Quand je vois par exemple des simulateurs qui circulent pour essayer de faire croire qu'il y aura une baisse des pensions, ça n'est pas sérieux parce qu'en réalité, nous garantissons justement qu'il n'y aura pas cette baisse des pensions. Et comment est-ce que nous le garantissons? C'est en travaillant sur la rémunération.
Jean-Michel Blanquer a reçu cet après-midi l'intersyndicale des enseignants afin de parler de la question des retraites. Mais pour l'instant, Stanislas, aucun chiffre n'est sorti.
Hakim Kasmi, merci. Du côté de la SNCF à présent, la perspective d'un jeudi noir sur les rails se confirme. Rappelons que tous les syndicats représentatifs appellent à la grève. Anne-Laure Jumet, bonsoir.
Bonsoir.
La compagnie vient de dévoiler ses prévisions de trafic. Le nombre de trains en circulation jeudi est très très réduit.
Oui, mieux vaut reporter ses déplacements ou trouver une solution alternative puisque la SNCF annonce moins de 10% du trafic habituel sur l'ensemble du réseau. Comptez en moyenne un TER sur 5, mais avec des bus de substitution et un trafic quasi nul en Bretagne et en Occitanie, un train sur 10 pour ce qui est du Transilien ou encore un TGV sur 10. Les cheminots donc largement mobilisés pour cette première journée de grève contre la disparition de leur régime spécial. Même la SNCF le reconnaît, la mobilisation est plus forte qu'en 2018 au moment des grèves contre la réforme ferroviaire. Et ça devrait durer puisque l'appel à la grève est illimité. Des usagers ont d'ailleurs déjà reçu des mails les informant de l'annulation de leur train circulant ce vendredi ou ce week-end. La SNCF prend ainsi les devants pour éviter l'engorgement dans les gares. Et puis dans la capitale, il sera aussi déconseillé d'emprunter le métro puisque 11 lignes seront fermées. L'UNSA et RATP qualifient déjà cette journée de succès et appellent à une deuxième mobilisation de grande ampleur lundi prochain. Le gouvernement doit comprendre au plus vite que nous ne lâcherons pas, dit-elle. Les syndicats prêtent donc à en découdre. À la SNCF, même la CFDT Cheminots s'est jointe au mouvement alors que la Confédération est favorable à la réforme. De son côté, le gouvernement attend quelques jours encore pour préciser le cadre de cette réforme et les périodes de transition accordées à tel ou tel secteur. Ces propositions sont attendues dans le courant de la semaine prochaine.
Anne-Laure Jumet, merci. Cette journée de grève entraînera aussi des perturbations dans le transport aérien. La Direction générale de l'aviation civile prévoit 20% de vols annulés jeudi sur le territoire français. De son côté, Air France annule 30% de ses vols domestiques et 15% de ses vols moyens courriers. Pour circuler malgré tout jeudi, certaines solutions alternatives se développent, comme le covoiturage et l'autopartage. Ces solutions progressent en France, mais elles restent moins utilisées que chez la plupart de nos voisins européens. Un constat dressé par l'observatoire CTLM dans son dernier rapport intitulé « La fracture automobile ». Les explications de Samuel Monod.
Le covoiturage, particulièrement entre le domicile et le travail, est en expansion en France. 10% des personnes interrogées disent l'avoir pratiqué plusieurs fois par mois. Un chiffre cependant en dessous de la moyenne européenne qui est de 13% et mondiale 17%. Un système qui concerne surtout une certaine classe d'âge, comme l'explique Flavien Nevy, directeur de l'observatoire CTLM.
On voit que les jeunes sont plus ouverts à ces formes de mobilité-là, donc les choses sont en train de bouger et on peut penser qu'au cours des prochaines années, ça va se confirmer.
Il suffit de voir les derniers chiffres de Blabla Lines, la filiale de BlaBlaCar pour les trajets domicile-travail. La plateforme a dépassé le seuil du million de membres et a enregistré deux fois plus de trajets que d'habitude en Ile-de-France lors du mouvement social de septembre dernier à la RATP. Succès donc du covoiturage, mais c'est plus mesuré pour l'autopartage, ce système qui permet de louer une voiture en libre-service. Il n'est plébiscité que par 7% des sondés. Louis-Michel Duret est responsable du financement automobile chez BNP Paribas.
Les villes sont éligibles à l'autopartage beaucoup plus facilement que les campagnes, par exemple. Donc, comme la majorité des utilisateurs de voitures sont dans les petites villes ou à la campagne, ils n'ont pas une tentation pour partager leur véhicule.
Et globalement, les Français restent très attachés à leur voiture. Plus de 8 sur 10 n'envisagent pas de troquer leur véhicule contre une solution alternative et estiment que l'on achètera ou possédera encore une voiture dans 10 ans.
Samuel Monod, merci. Faut-il élargir à l'antisionisme la définition de l'antisémitisme? C'est tout l'enjeu de la proposition de résolution examinée ce soir à l'Assemblée. Un texte non contraignant que l'on doit à un député LREM, Sylvain Maillard, inspiré par Emmanuel Macron. Lors du dernier dîner du CRIF, le président avait déclaré, je cite, « L'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme ». Pierre Neveu, bonsoir.
Bonsoir.
Cette résolution est loin de faire l'unanimité, elle suscite même un certain trouble certain dans les rangs de la majorité.
Et ce matin, le ton est monté lors de la réunion de groupe des députés LREM. Dans la coulisse, on parle même de début de dérapage. Hier, l'auteur de la résolution, le député Sylvain Maillard, s'est employé par mail et par téléphone à tenter de rassembler la centaine de députés co-signataires du texte. Mais le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, une cinquantaine de députés LREM seulement vont voter le texte. Les autres ont décidé de ne pas s'opposer, mais de le faire savoir. Gilles Legendre, le patron des députés marcheurs, revendique une prise de risque politique juste, loin des pressions, mais il ne cache pas son embarras.
Ça ne fait certainement pas des opposants à cette motion, ni des parias, ni des traîtres, des personnes déloyales. Il y a des sujets, il faut l'admettre, qui sont douloureux dans notre société, qui sont douloureux dans notre groupe. Et voilà.
À gauche, on ne votera pas ce projet de résolution. Pour Olivier Faure, le patron du PS, le gouvernement joue avec le feu. Mais chez les Républicains, on souligne que si le texte passe, eh bien ce sera grâce aux voix de la droite. Le patron des députés LR, Damien Abad, se réjouira presque de la situation.
On sent quand même une certaine confusion et un certain désordre dans la majorité. Chez nous, on a une convergence et on soutient ce texte et on va jouer un peu, je crois, les pompiers de service ce soir par rapport à une majorité qui est très divisée sur le sujet.
Alors après les soubresauts de la loi anti-casseurs et de la loi asile-immigration, ce projet de résolution révèle un peu plus toute la difficulté à tenir un groupe hétéroclite avec des élus toujours plus traumatisés par la crise des gilets jaunes qui ne veulent plus assumer toutes les décisions prises par le chef de l'État.
Pierre Neveu, merci. L'antisémitisme qui continue à sévir en France avec encore un cimetière juif profané en Alsace. 107 tombes du cimetière de Westhoffen ont été retrouvées dégradées ce matin. Les stèles étaient recouvertes d'inscriptions antisémites, essentiellement des croix gammées. Westhoffen est situé à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Strasbourg. En février dernier, à Quatzenheim, village situé à une quinzaine de kilomètres de Westhoffen, 96 tombes du cimetière juif avaient été profanées. La rencontre était très attendue dans un contexte de tension extrême entre les deux hommes. En marge du sommet de l'OTAN à Londres, Emmanuel Macron et Donald Trump se sont parlé cet après-midi. Sur le fond, le président français est resté sur ses positions. Il continue à penser que l'Alliance Atlantique est en état de mort cérébrale et il continue à avoir des doutes sur la fiabilité de la Turquie dans la lutte contre le terrorisme. Le président américain, lui, avait qualifié ce matin d'insultantes les déclarations d'Emmanuel Macron. Mais cet après-midi, le ton entre les deux hommes était nettement plus mesuré, Bertrand Galichet.
Côte à côte, dans le salon de la résidence des États-Unis à Londres, le ton est forcément plus conciliant entre Emmanuel Macron et Donald Trump, même si le président américain, avant cette conférence de presse, apparaît tendu, mâchoire serrée, comme davantage prêt à en découdre avec un adversaire que disposé au dialogue. En réalité, chacun a mis un peu d'eau dans son vin, sans rien céder sur le fond. Interrogé sur les commentaires véhéments de Donald Trump à son encontre ce matin, le président français reconnaît que ses propres déclarations sur la mort cérébrale de l'OTAN ont pu choquer. Il comprend aussi que les États-Unis réclament une plus grande implication des Européens dans la défense de leurs propres frontières et qu'ils gèrent leur voisinage en investissant beaucoup plus.
Les temps ont changé. D'abord parce qu'il n'y a plus de pacte de Varsovie. J'ai cru comprendre que le mur de Berlin était tombé, et ça fait quand même 30 ans. Et il y a aussi, depuis plusieurs années, des États-Unis d'Amérique qui nous disent « prenez vos responsabilités, nous devons les prendre ».
Emmanuel Macron en profite pour pousser son idée de défense européenne, pilier de l'OTAN. C'est cohérent, dit-il, avec la volonté de Washington d'alléger le poids financier que représente l'OTAN pour les États-Unis. Autre point de friction, la Turquie. Là où Trump reconnaît aux Turcs le droit d'assurer la protection de leur territoire, quitte à repousser les Kurdes de Syrie, le président français marque sa différence, rappelant le travail accompli par les Kurdes contre Daesh. Enfin, dans les conflits commerciaux entre France et États-Unis, les deux dirigeants pensent qu'une solution est possible sans s'avancer beaucoup.
Bertrand Galichet, envoyé spécial sur le sommet de l'OTAN à Londres. S'agissant de la taxe GAFA, la taxe sur les géants du numérique que la France veut mettre en place, le ministre de l'économie Bruno Le Maire avait promis une riposte européenne aux éventuelles sanctions américaines, menace de sanctions brandies par Donald Trump. Bruxelles s'engage effectivement à parler d'une seule voix face au président américain, mais à son rythme, comme nous l'explique Pierre Benazé.
L'Union européenne agira d'une seule voix, répond la Commission, suite aux menaces de Donald Trump. La réponse de l'UE peut porter sur deux volets entièrement séparés, à savoir d'un côté les droits de douane et de l'autre la fiscalité elle-même. Pour ce qui est des droits de douane dont Donald Trump se proposerait de frapper les produits français, l'Union européenne dispose de deux outils dont elle ne s'est jamais privée de faire usage. Il y a d'abord la voie juridique, avec l'ouverture d'une procédure devant l'organisme de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce. La Commission préconise de commencer par des pourparlers avec Washington pour une solution à l'amiable, plutôt que de se lancer d'emblée dans la voie procédurale. En dernier recours, pourraient intervenir des mesures de rétorsion, c'est-à-dire des droits de douane sur des produits similaires ou non. Les listes sont constamment mises à jour. La dernière fois qu'une telle liste a été publiée, on s'en souvient, c'était en juin 2018, face aux menaces de Donald Trump, déjà lui, de taxer l'acier européen. Le deuxième volet, celui de la fiscalité, est le plus compliqué. Les premiers projets formels de taxation des GAFA, avancés par la Commission européenne, datent de 2017. Et depuis, la taxation commune n'a pu être mise en place. Plusieurs pays bloquent, dont par exemple l'Irlande, qui héberge les sièges sociaux de plusieurs géants du numérique. À l'inverse, l'Autriche s'apprête à mettre en place une taxe encore supérieure à celle de la France. C'est donc sur l'instauration d'une taxe mondiale que tablent les Européens pour arriver à se mettre d'accord entre eux.
Pierre Benazé, correspondant à Bruxelles. En Iran, la répression du mouvement de contestation aurait fait plus de 200 morts selon Amnesty International, un bilan contesté par le régime des Mollahs qui parle de mensonges absolus. Une chose est sûre, Téhéran a choisi la manière la plus brutale pour mettre un terme à ces manifestations, Christian Chéneau.
Pour justifier cette poigne de fer, les autorités iraniennes ont dénoncé un complot ourdi de l'étranger. Téhéran ne parle pas de manifestants pacifiques, mais de groupes hostiles. Au-delà du bilan très lourd d'Amnesty International, mais sans doute sous-estimé, le pouvoir iranien a de son côté annoncé l'arrestation d'environ 500 personnes, dont celle de 180 manifestants qualifiés de meneurs. Face aux pressions américaines qui ne faiblissent pas, et face à cette contestation intérieure, la République islamique a choisi d'adopter de vieux réflexes sécuritaires. Les services de sécurité sont sur le qui-vive Lviv à la limite de la paranoïa. Pas question de tolérer la moindre déstabilisation dans cette période sensible. La gestion de cette dernière crise avec une coupure totale d'Internet pendant plusieurs jours a montré que les autorités entendaient utiliser tous les moyens pour mater la contestation. Les tirs à balles réelles de la part des forces de sécurité ont également marqué les esprits. Avec visiblement du succès, en tout cas à court terme, la contestation populaire est rentrée dans le rang. Mais pour combien de temps? La dégradation rapide et continue de l'économie iranienne et donc du niveau de vie de la population pourrait recréer les conditions de nouvelles explosions populaires. Le pouvoir le sait bien, il est aujourd'hui dans une situation difficile qui ne risque pas de s'améliorer. L'Iran est en état de guerre économique, la question du nucléaire semble sans solution en vue. Les prochaines mesures de désengagement de l'accord de Vienne de la part de Téhéran interviendront début janvier, avec de nouvelles tensions internationales en perspective.
Christian Chéneau, merci. Sans surprise, la Chine arrive en tête de la dernière étude PISA de l'OCDE. Depuis l'an 2000, PISA évalue les compétences des élèves de 15 ans dans trois domaines, les sciences, les mathématiques et la compréhension de l'écrit. Étude réalisée tous les 3 ans dans 79 pays, représentant 32 millions d'élèves. La France reste dans la moyenne haute des pays de l'OCDE, mais elle n'améliore pas ses résultats. Marie-Pierre Véraud, on retiendra du PISA 2019 le succès global des pays asiatiques.
Grand bond en avant pour la Chine, qui lors de la précédente session était classée au 10e rang et qui pointe là en tête. Si l'on était un peu provocateur, on pourrait même dire qu'elle truste en quelque sorte les 4 premières places du classement, puisque nous avons en numéro 1 la République populaire de Chine, suivie par Singapour, peuplée en majorité de Chinois, Macao et Hong Kong, les deux régions administratives spéciales de la Chine. Alors, Pékin ne joue pas forcément le jeu, et pour occuper ainsi le haut du tableau, ne présente en fait que les meilleures provinces au concours, 4 seulement. Cela dit, l'éducation est considérée comme un domaine prioritaire dans de nombreux pays asiatiques. En Corée du Sud, notamment 9e cette année, les enseignants sont très respectés et leurs salaires attractifs. C'est également le cas chez nos voisins européens qui réussissent. Le Portugal, par exemple, a effectué une remontée spectaculaire en 10 ans. Lisbonne a beaucoup investi dans la formation des enseignants et surtout leur accorde un salaire enviable, supérieur à celui d'un juge en début de carrière. Les enseignants en portugais passent également davantage de temps avec leurs élèves et le Portugal est parvenu ainsi à résoudre l'un des travers qui mine l'école française, la question des inégalités sociales. Dans les pays qui réussissent, enfin cette année, l'Estonie par exemple, 5e au classement, on retrouve ce même cocktail. L'éducation est valorisée dans la société, les professeurs bien payés, leur formation de qualité, les établissements scolaires autonomes et les jeunes font part de leur confiance dans le système éducatif et les possibilités qu'il leur ouvre.
Marie-Pierre Véraud, merci. S'agissant de la France, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, parle d'un résultat insatisfaisant. Le ministre qui relève un point noir dans cette étude PISA. Les élèves français les plus fragiles sont nettement moins bons que la moyenne internationale. C'est sur ces élèves que nous devons concentrer de grands efforts, explique Jean-Michel Blanquer dans un entretien au Figaro. On termine ce journal avec un départ, celui de Bernard Pivot. L'ancien animateur d'Apostrophe quitte l'Académie Goncourt, dont il était membre depuis 15 ans et président depuis 5 ans. L'Académie l'a annoncé aujourd'hui dans un communiqué. Il y a quelques semaines encore, Bernard Pivot avait remis le dernier prix Goncourt à Jean-Paul Dubois. Cécile de Kervazoué, bonsoir.
Bonsoir.
À 84 ans, Bernard Pivot a choisi de retrouver une certaine forme de liberté.
Oui, et c'est un choix personnel mûrement réfléchi. Comme lorsqu'il avait arrêté ses émissions de télévision, Bernard Pivot avait donc prévenu l'Académie Goncourt 6 mois à l'avance qu'à presque 85 ans, il souhaitait lever le pied. Car présider le prix Goncourt, c'est non seulement beaucoup de travail de lecture, mais aussi beaucoup de réunions, beaucoup de voyages à l'étranger et c'est très très fatigant. C'est d'ailleurs pour cette raison que Bernard Pivot a été le premier à imposer aux jurés de ce prix littéraire une limite d'âge non rétroactive à 80 ans. Une disposition saluée par plusieurs des 10 membres de l'Académie qui rendent aujourd'hui hommage à l'intégrité de Bernard Pivot, car il est le premier à avoir su imposer de la transparence et surtout des règles de déontologie à l'Académie Goncourt. C'est ce qu'explique l'écrivain Pierre Assouline. Il est membre du jury du Goncourt depuis 2012 et un ami de 30 ans de Bernard Pivot.
La rumeur sur la corruption des jurys par les maisons d'édition, en ce qui concerne le Goncourt, Bernard Pivot a été celui qui a le plus œuvré pour faire que ce soit une légende et plus une réalité. Il a œuvré il y a une dizaine d'années pour modifier le règlement. Il est interdit à tout membre du jury d'avoir une activité au sein d'une maison d'édition. Être jugé parti, c'est un conflit d'intérêts qui doit être condamné d'emblée. Mais malheureusement, c'est pas le cas partout. En fait, il a toujours incarné une indépendance totale par rapport aux maisons d'édition. Et ça nous a protégés des pressions, des lobbies et de tout le reste. D'ailleurs, il a eu ce mot un jour, il a dit « Jamais le jury Goncourt n'a été aussi indépendant qu'aujourd'hui ».
Et Pierre Assouline rajoute « Il sera donc bien difficile à remplacer. Un nouveau président devrait être élu en janvier prochain. En attendant, Bernard Pivot compte bien profiter de son temps libre avec ses amis et ses petits-enfants.
Merci Cécile de Kervas-Doué. Un mot du temps demain, gris et brumeux sur le nord du pays alors qu'il pleuvra au sud, notamment entre les Pyrénées et le golfe du Lion. Il neigera en montagne, les températures minimales seront froides, de moins 3 à moins 5 degrés sur le nord-est, de 0 à moins 1 en général. Les maximales seront comprises entre 3 et 17 degrés du nord aux régions méditerranéennes. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec François-Charles Domergue.